Amateur de belles carrosseries, de techniques avant-gardistes ou même néophyte mais souhaitant en savoir plus, bienvenue dans Rétro Auto. Tous les 15 du mois, découvrez un nouvel épisode décortiquant un modèle en particulier. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la Dodge Viper. À une période où la Corvette est sans rival sur le marché des grosses sportives américaines, Dodge en est jaloux et décide de créer un prototype qui sera capable de rivaliser en termes de performance et de l'écraser. Nous sommes en 1989, le premier prototype est présenté par Bob Lutz, le président du groupe Chrysler à l'époque. Carroll Shelby, le célèbre créateur des Mustang Shelby et autres Cobra, pilota un modèle de pré-série aux 500 miles d'Indianapolis, faisant de ce fait une magnifique publicité pour ce modèle. La Viper fut commercialisée dès janvier 1992 sous sa première version RT10, un roadster avec comme nom de code SR. Une évolution mécanique et esthétique arriva en 1995 pour prolonger la durée de vie du modèle, jusqu'en 2002 avec l'apparition du coupé GTS. De là, le châssis ZB, un tout nouveau châssis, fut conçu et dura jusqu'en 2010 avec néanmoins un restylage en 2006. Ce fut, commercialement, la Dodge Viper SRT10. Une pause intervint entre la deuxième et la troisième génération de Viper, puisque la commercialisation n'est reprise qu'en 2013 jusqu'à aujourd'hui. La raison de cette interruption? Le 1er juillet 2010 sort la dernière Viper de l'usine de Snake Pit à Corner Avenue chez Dodge. La production de la Viper VX, la troisième génération du désormais très célèbre coupé de chez Dodge, se poursuiva donc chez SRT, la filiale sportive du groupe Chrysler Fiat. SRT voulant dire Street and Racing Technology, cette branche motorsport a été créée à l'origine pour la Viper. De la muscle car très virile, moderne, à une supercar embourgeoisée, l'évolution de la Viper a marqué les esprits dès les plus jeunes âges, avec l'apparition notamment de ce coupé dans les jeux Gran Turismo. Un interminable capot donnant sur un habitacle court, exagérément reculé vers l'arrière, donnant sur un petit coffre, voilà le profil de la Viper. Je vais plus vous parler de la première génération de Viper, surtout la RT10, car elle dispose de quelques particularités qui, heureusement, disparaîtront avec le temps. La voiture est un roadster, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de toit. Et le groupe Chrysler a tenu à vraiment respecter ce terme, puisqu'il n'y a effectivement pas de toit fourni avec la voiture. Mais bon, il n'y a pas non plus de vitres sur les portières, portières qui d'ailleurs s'ouvrent que dans l'intérieur, il n'y a pas de poignée à l'extérieur. On critique la Renault Twizy, mais Dodge n'avait pas fait mieux avec un véhicule bien plus important et bien plus cher à l'époque. Mais tous ces oublis ont été faits pour la bonne cause, la réduction du poids, puisque le bébé pèse tout de même 1490 kg. Un couvre-tonneau était tout de même fourni avec la voiture, mais pas commode à installer puisqu'il fallait le visser à l'arrière, sur les portières, et le zipper au niveau du pare-brise pour qu'il tienne. De plus, il n'était pas vraiment étanche. Même si la Viper GTS pesait 27 kg de moins que la version Roadster, elle n'en reste pas moins un poids lourd dans la catégorie des sportives, mais bon, elle a une excuse, c'est une américaine. Toujours sur la Viper RT10, première génération donc, les essuie-glaces n'étaient pas synchronisés, c'est-à-dire que ça laissait une image pas très flatteuse de la Viper sous la pluie. Mais bon, une Viper sous la pluie, c'est plutôt rare, hein, faut éviter hein, quand même. Le coupé GTS avait une particularité, son double bossage au niveau du toit, permettant d'enfiler des casques facilement dans la voiture. D'ailleurs, avec l'apparition de la GTS, une option double bande blanche apparaissa dans les options de peinture, permettant d'avoir deux bandes blanches qui partaient du pare-choc avant jusqu'au pare-choc arrière, ajoutant un petit peu d'agressivité au passage. Sur la deuxième génération, un bon paquet des pièces est nouveau. Et d'ailleurs, sur la phase 2 de la génération ZB, le capot a été modifié pour recevoir des louvres en plus de l'entrée existante. La Viper SRT10, la deuxième génération, a vu son poids grimper entre 1530 et 1570 kg suivant les versions. La troisième génération de Viper stagne autour des 1530 kg malgré l'apparition de nouvelles technologies, de nouveaux matériaux tels que l'aluminium ou le carbone. Heureusement que les versions compétition ont vu leur poids baisser à 1295 kg pour respecter le règlement. Le concept de la Viper est plutôt simple, hein. Fixer deux sièges sur un moteur extrêmement puissant. Le moteur est installé entre deux longerons rectangulaires qui rétrécissent au fur et à mesure qu'on se dirige vers l'arrière. Pour le train arrière, les longerons s'écartent et viennent encercler une cage comprenant la suspension, le réservoir, une roue de secours, la batterie et puis le coffre, puisque la batterie se trouve délocalisée vers l'arrière du véhicule. Répartition des masses. Une double triangulation, des disques ventilés aux quatre roues, la Vapeur est plutôt bien équipée dès son lancement. Certains éléments seront rapidement remplacés par de l'aluminium, les rendant plus rigides et plus légers. Les Michelin Pilot Sport MXX 3, développés spécialement pour l'occasion, sont là pour transmettre la puissance au sol, même si les pneus de 335 de large à l'arrière finissent quand même par déraper. La Vapeur RT10 est quand même capable d'encaisser 1G d'accélération latérale grâce à eux. La Vapeur SRT10 aura un châssis 25% plus rigide que la première génération, même si elle sortira d'abord en Roadster. La version coupée ne bénéficie d'ailleurs d'aucun renfort ou d'aucune amélioration en performance, le rendant plus lourd et moins performant. La troisième génération étant conçue avant tout comme un coupé, j'imagine que la rigidité doit être excellente. Aucune info pour l'instant sur ce sujet. 10 cylindres en V, telle est la configuration du moteur. Environ 323 kg, 400 chevaux et 630 N de couple, autant dire qu'on ne verra pas ça sous le capot d'une Twingo. Basé sur le V10 en fonte du Dodge Ram, le pick-up plutôt puissant de la marque, Dodge fera néanmoins appel à Lamborghini pour fabriquer le V10 8 litres de cylindrée tout en alu. Avec une relocalisation des sorties d'échappement vers l'arrière au lieu d'être sous les bas de caisse, la puissance augmentera à 415 chevaux. Sous le capot des Viper GTS SR, la puissance augmentera même à 450 chevaux. Dans la Vapeur SRT10, nom de code ZB, la cylindrée augmentera à 8,3 litres et la puissance grimpera à 500 chevaux. Avec quelques modifications, le poids du moteur descendra à 230 kg, ce qui est déjà un peu plus raisonnable. Le moteur sera de nouveau réalisé en 2008 à 8,4 litres de cylindrée, permettant de sortir environ 600 chevaux et 760 N de couple. Dans la liste des modifications apportées au moteur, on verra notamment des imbrocams plus agressifs, on verra des soupapes plus grosses, des ressorts de soupapes plus durs, l'apparition d'un système de levée variable des soupapes côté échappement, ou encore deux débitmètres au lieu d'un seul. Ces modifications sont apportées avec un peu d'aide de la part de McLaren, et tout ça pour concurrencer la Corvette ZR1 avec ses 638 chevaux. La troisième génération, la VX, reçoit donc en 2013 le moteur toujours réalisé à 8,4 litres de cylindrée, encore une fois amélioré pour sortir 640 chevaux et 813 Nm de couple. À la question est-ce qu'on peut s'en servir pour donner de l'élan à un pigeon, je pense que oui, clairement. Le succès de la Vapeur tient dans sa capacité à accélérer fort, vraiment fort. Et plusieurs ont imaginé rapidement exploiter cette capacité en compétition, et ça lui a plutôt réussi. Sa première apparition sur les circuits fut au 24 heures du Mans 1994, où deux modèles de Vapeur terminèrent 2e et 3e de leur catégorie GT1, ce qui est un exploit pour une course de 24 heures. Un autre exploit en compétition était la Vapeur GTSR du Team Oreca en 2000 au 24 heures de Daytona, où en fait les GT étaient plus performantes que les prototypes. Autrement, de nombreuses variantes ont été développées pour participer aux courses GT2 ou GT3 de par le monde. Et en général, elles sont toujours plutôt bien classées. Mais en dehors des circuits, il faut savoir que la Vapeur a eu droit à une série policière dédiée à elle, qui s'appelle tout simplement Vapeur, où la particularité est que les protagonistes disposent d'un modèle très lourdement équipé en armes, disposent d'une carrosserie métamorphe blindée, tout ça pour mettre à mal les criminels. Cette série, on la retrouvera sur nos petits écrans entre 94 et 98 pour promouvoir le modèle auprès du grand public. La Vapeur eut aussi droit à de nombreuses modifications de la part de tuners spécialistes des voitures américaines, notamment NSA, ACR ou encore Mopar, avec des modifications permettant d'atteindre des puissances de plus de 1000 chevaux. Donc, ça avance. Voilà, l'épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont fait un retour. J'ai essayé d'en tenir compte, notamment de ne pas regarder l'écran mais regarder plutôt la caméra. Je vais vous avouer que c'est très difficile, vraiment très difficile. Mais je fais des efforts, j'essaye en tout cas. N'hésitez pas à partager si le contenu vous a plu, mettre un pouce vers le haut si vous êtes sur YouTube, ou mettre un petit commentaire, ou m'envoyer un mail même si vous l'avez en version podcast et que vous aimez ça. Et puis bah, on se retrouvera au 15 du mois prochain. Autrement, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc si vous me regardez, c'est juste là qu'il faut cliquer, par là. Là. Et bah, autrement, vous allez sur YouTube et vous tapez 7DD. Et vous devriez me retrouver, hein, S-E-V-E-N-D-E-D-E. Autrement, bah, pour la version audio, c'est-à-dire retro-auto.podcloud.fr, et vous trouverez les prochains épisodes. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans Retro Auto.